Lorsque on lit un livre, généralement on commence par le début. Et puis on suit la chronologie des événements jusqu'à l'achèvement du dernier chapitre. C'est en général ce que nous faisons quand on lit un livre. Je pense que c'est la manière dont vous procédez. Et si vous sautez les premiers chapitres du livre pour vous rendre directement à l'intrigue, il y a de fortes chances pour que vous ne compreniez pas l'intrigue, ou en tout cas que vous la compreniez de manière imparfaite. Eh bien, il se trouve que dans la Bible, c'est la même chose. À l'origine de toute chose, il y a la Genèse, donc signifiant « origine ». Et dès le début de la Bible, on nous présente comment les choses se sont faites par l'intermédiaire de Moïse, qui a été le rédacteur de la Genèse et plus généralement des 5 premiers livres de la Bible. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette Genèse, de bien saisir ce que Dieu veut nous dire dès le début, parce que c'est là où les bases sont posées. C'est là où on a les fondations qui sont mises et qui vont nous permettre ensuite de comprendre mieux le plan de Dieu qui suivra. Nous avons dans la Genèse les grandes lignes sur qui est Dieu. Nous avons les grandes lignes sur la nature, l'environnement qui nous entoure, sur l'homme, la femme, sur ce qui ne tourne pas rond dans le monde, sur le plan de sauvetage que Dieu va initier dès les premiers livres de la Genèse face au péché. Tout ça, nous le trouverons dans la Genèse. Et évidemment, on ne pourra pas tout voir ce matin, ce serait un trop gros morceau, mais j'espère qu'au travers de l'étude du premier chapitre que nous allons voir ce matin, cela contribue à nous apporter une vision encourageante sur le Dieu trinitaire qui a conçu toutes choses et qui nous a fait à son image. Alors pour cela, nous allons découper notre texte en 4 parties, pas forcément égales en longueur. Premièrement, on va s'arrêter sur les 2 premiers versets. Dieu à l'origine de toute chose, c'est le titre que j'ai donné à cette partie. Puis on verra les versets 3 à 25, la mise en forme d'un habitat organisé qui déborde de vie. Puis dans la troisième partie, des versets 26 à 31, le couronnement de la création, l'homme et la femme faits à l'image de Dieu. Pour enfin terminer avec le chapitre 2, les versets 1 à 3 qui sont beaucoup plus courts. Le repos du grand architecte de l'univers. Alors tout d'abord, Dieu à l'origine de toute chose, dans les versets 1 et 2 de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors tout d'abord, un peu d'explication parce que ce premier verset mérite de s'y arrêter un peu. À vrai dire, certains prédicateurs ne font même une prédication que sur les 2 premiers versets de la Genèse, tant il y a de choses à dire. Ce ne sera pas mon cas, je vous rassure. Quand on lit ce premier verset, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. On peut s'interroger parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a déjà une première création, la terre ferme et le ciel, alors que ces éléments, on l'a entendu dans la lecture que Michael a faite, seront créés dans un deuxième temps. Du coup, je pense que l'interprétation la plus plausible et la plus naturelle de ce verset, c'est de le voir comme une sorte de chapeau introductif, où Dieu nous dit, voilà comment les choses se sont passées. Au tout début, eh bien, Dieu va créer le ciel et la terre, c'est-à-dire l'ensemble des choses, et on va vous expliquer par la suite comment ça s'est mis en forme. Nous avons dans ce monde primitif une espèce de matière première. La terre était informe et vide, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. On a une sorte de glaise, si l'on peut dire, à partir duquel le potier va former quelque chose qui aura une forme, une structure et une vie. Et puis dans cette masse un peu informelle, l'Esprit de Dieu plane, couvre les eaux, un peu comme un aigle qui vole au-dessus des airs avec cette image de majesté, de contrôle. Mais l'essentiel est sans doute ailleurs. Le texte veut d'abord nous dire une chose, au commencement, Dieu. Si la terre a un début et qu'elle aura une fin, cela est clairement exposé dans la Bible, Dieu est là depuis toute éternité. Son existence est posée comme un préalable incontestable. La Genèse ne cherche pas à expliquer son existence, elle ne cherche pas à expliquer la présence du divin. On chercherait à tort de vouloir prouver l'existence de Dieu au travers de la Genèse. Dieu est là, tout simplement. C'est lui qui est le centre de l'histoire, c'est lui qui en est le personnage principal. Sa souveraineté est absolue. Quand nous lisons dans le verset 1, que Dieu créa le ciel et la terre, ce verbe créer, en hébreu bara, c'est un mot qui est utilisé uniquement pour Dieu. Quand les hommes créent, il y a un autre mot en hébreu pour ça. Et en réalité, l'homme ne crée pas, il transforme. Il utilise la matière déjà existante pour en faire quelque chose de nouveau. Mais Dieu, lui, et c'est sa spécificité, il fait quelque chose à partir de rien. Du néant, il fait surgir la vie. Et c'est bien là ce qui distingue fondamentalement Dieu de l'homme. Dès le début, Dieu va révéler par son projet créationnel son existence trinitaire. On en a parlé un petit peu lors de la présidence. La Trinité n'est pas un concept nouveau qui aurait été inventé par l'Église au 1er ou 2e siècle. On voit déjà, dès les premières pages, comment cette idée de la Trinité, même si le terme n'est pas utilisé, est déjà introduite. D'abord par le nom de Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim. Elohim, en hébreu, ça veut dire Dieu, mais il y a un suffixe « im ». Et dans le texte original, « im » désigne un pluriel. C'est intéressant de noter ça. On a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui utilisent ce mot d'Elohim pour désigner les dieux des nations, donc avec ce pluriel, comme par exemple au psaume 96,5, où il est dit « car tous les dieux, tous les Elohim des nations sont des idoles ». Dans ce sens-là, Elohim a bien un sens pluriel. Mais quand il est utilisé pour désigner notre Dieu, c'est un pluriel qui a une signification en singulier. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est une personne avec un nom pluriel. Et on devine déjà, au travers de ce nom-là, Elohim, ce mystère de la Trinité. Déjà, le texte nous dit que l'Esprit de Dieu était là, distinct donc des autres personnes de la Trinité. Et l'apôtre Jean, dans le Nouveau Testament, nous dit au tout début qu'au commencement de la création, le Logos, Jésus, était avec Dieu, il était lui-même Dieu, tout a été créé par lui, par Jésus, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien à l'œuvre, tous ensemble, dans la conception de ce projet grandiose que nous allons voir. Alors, évidemment, quand on parle de la création du monde, on est tout de suite confronté à la vision et à la perspective évolutionniste qui est aujourd'hui très largement acceptée dans notre monde. Mon but ici n'est certainement pas de rentrer dans le détail du débat créationniste-évolutionniste. Je n'en ai de toute façon pas la maîtrise ni les compétences. Et puis, je pense que le contexte d'une prédication ne se prête pas forcément à ce type de discussion. Néanmoins, nous allons juste tirer les conclusions logiques qui s'imposent dans une vision évolutionniste et dans une vision créationniste. Dans la perspective évolutionniste ou matérialiste, on nous dit que l'origine de la vie n'est que le résultat d'une longue succession de rencontres fortuites, hasardeuses, entre des atomes préexistants, on ne sait pas trop d'où, et puis après une longue succession de rencontres qui vont former des organismes qui vont eux-mêmes évoluer, toujours sur l'effet du hasard et de la sélection naturelle, on va arriver à l'homme. L'homme. Son intelligence, sa sensibilité, sa compréhension du mal et du bien, sa capacité à aimer, toutes ces choses-là ne sont finalement que le résultat de multiples interactions chimiques. La vie est un hasard, et la mort n'est que l'effacement de nos cellules. Le sens de l'existence est donc introuvable, ou tout du moins subjectif, puisqu'il n'y a pas de raison à notre présence sur Terre, il n'y a pas de volonté préexistante. Toute personne intellectuellement honnête qui partage sans réserve la perspective évolutionniste ne peut pas aboutir à une autre conclusion que la vie sur Terre n'a aucun sens. Et c'est une conclusion absolument désespérante. À l'inverse, dans la perspective biblique, Dieu est bien l'auteur de toutes choses. Et ça change tout. Mon frère, ma sœur, si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Tu n'es pas un accident. Tu as beaucoup plus de valeur qu'un simple amas d'atomes. Il a un plan pour toi et il te laisse des années de vie pour que tu puisses le connaître, le glorifier, l'aimer et aimer ton prochain. En attendant le jour glorieux où tu le verras en face. Avoir Dieu comme créateur, ça signifie aussi qu'il y a un maître au-dessus de l'homme. Qui dit créateur dit créature, qui dit maître dit serviteur. Si l'on est chrétien, c'est une perspective assez formidable et rassurante de savoir que l'on est en paix avec ce grand créateur de l'univers. Et cette paix, c'est la bonne nouvelle, il est possible de la trouver en Jésus-Christ. Mais si l'on vit en adversaire du grand créateur de l'univers, alors, quelle perspective terrifiante! Qui aurait envie de se retrouver seul face à une armée? Au fond, je pense que c'est probablement la raison principale pour laquelle notre monde a tant de difficultés à admettre que la Terre a été créée. Finalement, je pense que la science n'est qu'un prétexte ou une couverture par laquelle on évacue la possibilité d'être une créature sous l'autorité d'un créateur. Et on tente ainsi de se débarrasser à bon compte, ou du moins en surface, de cette crainte intérieure qui ronge tout homme éloigné de son créateur. Pourtant, à l'origine, Dieu a voulu toute chose bonne, et il a créé toute chose bonne. Il dévoile l'immensité de sa sagesse et de sa bonté. Nous ne devrions pas avoir de raison de le craindre, en tout cas à l'origine. Et cela nous amène à notre deuxième partie, Dieu qui va créer un monde organisé qui déborde de vie, à partir des versets 3 jusqu'au verset 25. Verset 3, Dieu dit alors, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir puis un matin, ce fut le premier jour. Il est intéressant de noter ici que la première œuvre d'Élohim consiste à amener la clarté. Quelque part, j'ai envie de dire, il signe son identité de Dieu de lumière. Éblouissant, celui qui chasse les ténèbres. Mais d'un point de vue plus matériel, plus pragmatique, la lumière, c'est aussi le premier élément nécessaire au développement de la vie. Sans lumière, pas de chlorophylle possible, pas de luminosité, pas de végétation qui peut pousser, qui peut se développer. La question qui se pose alors est de savoir d'où venait cette lumière, puisque les astres n'avaient pas encore été créés. La réponse la plus naturelle est probablement le fait que Dieu lui-même était la lumière. Le psaume 104,2 nous dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, que dans cette nouvelle cité céleste, il y aura une lumière éternelle dont la source sera le Seigneur lui-même. Plus besoin de soleil, le Seigneur sera la source de la lumière. Cette lumière et cette obscurité qui vont cohabiter seront une condition essentielle pour pouvoir marquer une période de temps. Pour la première fois, il y a un jour et un matin, un soir et un matin. Deuxième question qui se pose, c'est s'agissait-il d'une journée de 24 heures ou d'une durée de temps indéfinie? Il y a chez les chrétiens des discussions sur ce sujet. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans les deux camps, on trouve des chrétiens tout à fait honorables. Mais pour ma part, je pense que quand Genèse parle de journée, il s'agit bien de journée de 24 heures. C'est la compréhension naturelle, en tout cas du terme hébreu qui est utilisé, yom, jour, qui désigne toujours, dans l'Ancien Testament, une période de temps de 24 heures, et non pas une durée indéfinie qui pourrait durer des millions d'années. Et c'est d'ailleurs, le texte nous amène assez naturellement vers cette compréhension quand il dit systématiquement, après chaque acte créateur de Dieu, il y eut un soir, puis il y eut un matin, pour bien montrer que cette durée n'est pas une durée indéfinie, mais plutôt une durée qui aurait celle que nous connaissons de 24 heures. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Après la lumière, l'eau. Sur cette planète primitive, beaucoup de choses nous échappent, il faut le reconnaître. Et la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui n'était pas la Terre qui était en train de se former. La masse aquatique inférieure se sépare et une masse aquatique est établie au-dessus, que Dieu va appeler ciel et qui va former en quelque sorte notre atmosphère. D'un côté, il y a une sorte d'eau primitive qui vont former les océans, créés plus tard. Et puis de l'autre côté, il y a une espèce de couche d'eau au-dessus du ciel, comme une sorte de couverture aquatique. Mais la pluie n'existait pas encore. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Une des choses que révèle le récit créationnel, c'est la souveraineté absolue, totale de Dieu. Il dit, je veux. Et ce fut ainsi. Ce mot, ce fut ainsi, cette expression est répétée à 5 reprises dans le texte. Il n'y a pas d'explication sur le processus. Dieu veut, Dieu dit, et la chose se fait. Ces eaux qui recouvraient tout, toute la terre, sont appelées à se regrouper en un seul endroit afin de laisser place à la terre ferme. Et c'est intéressant de noter, ça peut paraître anecdotique, mais ça a quand même son importance, que d'un côté il y avait la mer et de l'autre côté la terre ferme, qui forme donc une sorte de bloc relativement unifié, assez différent donc de ce que nous connaissons aujourd'hui, avec une succession de continents, d'océans et de continents. Et ce bloc terrestre, figurez-vous qu'il a un nom, les scientifiques l'appellent la Pangée. Et il y a de très fortes preuves qui montrent qu'à l'origine, il n'y avait pas différents continents, l'Asie, l'Amérique, etc., l'Océanie, mais un seul bloc unifié qui s'est détaché progressivement sous l'influence des plaques tectoniques. Eh bien, la Genèse va dans ce sens. Immédiatement après que l'eau et la terre ferme aient été créées, Dieu dit au verset 11 que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Sous l'effet de sa parole puissante, la végétation apparaît, elle sort du sol déjà à l'état mature. Et Dieu commence à faire des distinctions. Il y a ce règne végétal, et au sein de ce règne, des espèces différentes cohabitent selon leur sorte, chacun selon sa semence. Il y a donc distinction, mais il y a aussi diversité, puisque Dieu ne va pas créer une seule sorte d'arbre, mais des arbres différents qui chacun vont porter leur propre semence. Et cela nous parle, nous dit quelque chose sur Dieu. C'est un Dieu qui à la fois fait des distinctions, il n'est pas un Dieu de chaos, de mélange inconsidéré, mais c'est aussi un Dieu de diversité, qui aime qu'il y ait une multitude de choses différentes. Et le monde dans lequel nous vivons le montre. Combien de fleurs différentes avons-nous? Combien de formes, de couleurs, d'odeurs pouvons-nous contempler dans ce monde? Dieu est un Dieu de diversité organisée. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, verset 14, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour et de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, il sert de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le quatrième jour. Quand je lis ce passage en particulier, je ne peux que m'incliner devant la majesté de ce Dieu souverain. En un clin d'œil, il crée la lune, le soleil, les étoiles, afin d'apporter la lumière et pour marquer les époques. Il fait les étoiles. On peut passer très vite sur ça. Mais Michael en disait deux mots tout à l'heure sur les étoiles. La plus proche, la plus lointaine que nos yeux sont capables de percevoir, la galaxie d'Andromède est située à 2,6 millions d'années-lumière de la Terre. 2,6 millions d'années-lumière. Certains diront, ben voilà, la preuve que la Terre n'a pas pu être formée en 24 heures. Regardez, juste pour que la lumière d'Andromède arrive jusqu'à la Terre, il a fallu 2,6 millions d'années-lumière. Mais on peut aussi prendre les choses autrement et se dire que dans sa toute-puissance, Dieu a créé la lumière en même temps qu'il a créé les étoiles. Ça nous dépasse totalement, complètement. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le fait que Dieu crée les astres nous dit aussi quelque chose. Ça balaye d'un revers de main toute forme d'astrologie qui était pourtant répandue à l'époque de l'Égypte ancienne, contexte dans lequel, je le rappelle, Moïse a grandi et vécu. Moïse est entouré d'un contexte païen, polythéiste, qui croit à l'influence des astres sur les vies. Et là, il nous dit que les planètes sont bien l'œuvre du Seigneur et qu'aucun astre ne saurait déterminer ni la personnalité ni la destinée d'une personne. Chers amis, ces croyances mensongères sur l'astrologie sont l'œuvre du diable. Elles enchaînent mentalement et spirituellement tous ceux qui y adhèrent. Et si vous étiez éventuellement tombé dans ce piège de l'astrologie, ce texte nous invite plutôt à mettre notre confiance dans celui qui a créé les astres, plutôt que dans les astres eux-mêmes. Et Dieu dit, verset 20, que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que les animaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. » Ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit, verset 24, que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte, et Dieu vit que c'était bon. Le cinquième jour de la création, Elohim se concentre sur les animaux marins et les oiseaux, puis à partir du sixième jour sur les animaux terrestres. Là encore, on voit son souci de distinguer les espèces. Il le répète à foison, selon leur sorte, selon leur sorte, selon leur sorte. Il y a des distinctions d'espèces. Dieu crée un ordre. Concrètement, cela veut dire que chaque animal, chaque espèce a reçu son ADN propre qui fait qu'elle ne peut pas se reproduire avec un autre animal dont l'ADN est différent. Il existe une multitude de chiens dans l'espèce chien qui peuvent éventuellement se reproduire entre eux, mais un chien ne peut pas se reproduire avec un chat parce qu'il s'agit d'une autre espèce. Et dans cette création, les animaux forment une catégorie particulière dans tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Pour la première fois, en effet, il bénit sa création en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur terre. » Dieu est un Dieu de vie. Il aime voir la profusion. Quand il bénit, il amène la multiplication. Ce Dieu qui crée avec abondance nous dit quelque chose de son caractère foncièrement généreux, foncièrement libéral. Dieu ne retient pas sa générosité, il aime qu'elle se voie, qu'elle se déploie sur toute cette terre. Je voudrais faire une petite pause ici et vous donner une petite illustration du génie créateur des dieux. Parmi les 7,7 millions d'espèces animales estimées sur Terre, on compte les fourmis. Dans les fourmis, on compte 12 000 espèces différentes, répertoriées. Il y en a peut-être plus. Et parmi ces 12 000 espèces, je voudrais vous parler d'une, la fourmi coupe-feuille. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Non ? La fourmi coupe-feuille, comme son nom l'indique, découpe des feuilles. C'est son activité principale, elle fait ça toute la journée et elle en ramasse chaque jour plusieurs kilos. Pourtant, la végétation est parfaitement inassimilable par son organisme. Elle ne peut pas le manger, ça lui sert à rien, en tout cas en apparence. Que fait-elle donc avec cette herbe ? Eh bien, elle le dépose dans sa fourmilière pour nourrir un champignon unique qui n'existe que dans les fourmilières. Ce champignon est nourri par les herbes et donc il se multiplie, il croît et il forme une nourriture absorbable par les fourmis. En quelque sorte, les fourmis, cette fourmi coupe-feuille, sont des fourmis d'élevage. Problème, c'est que ce champignon dégage du dioxyde de carbone susceptible d'asphyxier les fourmis. Qu'à cela ne tienne, les fourmis ont créé dans leur fourmilière de grosses bouches d'aération pour pouvoir évacuer le gaz toxique et faire venir de l'air pur dans la fourmilière. Et ainsi, leur équilibre est maintenu. Devant une telle ingéniosité, franchement, comment ne pas tourner nos regards avec admiration devant celui qui a donné cette sagesse à ces tout petits insectes ? Et des exemples comme ça, on pourrait en donner des milliers et des milliers. Assurément, il faut beaucoup de foi pour ne pas croire en l'existence d'un créateur doté d'une sagesse supérieure. Le jour même, le sixième jour, où Dieu va créer les animaux, il va aussi réaliser l'achèvement de son projet. C'est ce que nous allons lire dans les versets 26 à 31. Il va créer l'homme et la femme à son image. Verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme pour qu'il soit notre image et nous ressemble, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les terres, sur toute la terre, sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il eut un soir, puis il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ce passage, versets 26 en particulier et 27, confirme cette intuition d'un Dieu trinitaire. Je pense que vous l'avez relevé, l'utilisation de la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image. Il n'est pas dit « je vais faire l'homme, mais faisons ». Il y a là un pluriel qui n'est pas anodin et qui nous montre que cette œuvre de création est une œuvre collective qui implique, nous le savons donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Trois fois, l'expression est répétée. Qu'est-ce que ça veut dire, créer à l'image de Dieu ? D'abord, ça veut dire que l'homme est foncièrement différent du règne animal, bien qu'il ait été créé le même jour. Et cela encore va à l'encontre de la théorie évolutionniste qui dit que l'homme n'est que l'aboutissement d'une succession d'évolutions dont le singe est son ancêtre le plus proche. Et bien sûr qu'il y a des similitudes entre l'être humain et les animaux, mais fondamentalement, l'être humain est différent de l'animal. Il a reçu un mandat de dominer la création, et non pas dominer dans un sens d'exploiter, comme malheureusement les hommes le font aujourd'hui. Ils se servent de la nature comme d'un réservoir sans ressources pour la piller et la gaspiller. Mais le mandat originel de l'homme, c'est d'être en quelque sorte l'intermédiaire de Dieu pour être le maître de cette création, à la fois sur le monde végétal et le monde animal. Être à l'image de Dieu ne veut certainement pas dire que dans son apparence physique, l'homme et la femme ressemblent à Dieu. Dieu n'a pas de forme, il n'y a pas une ressemblance physique entre nous et lui. On nous parle plutôt d'un caractère, d'une capacité de communication qui est unique à l'homme. Capacité de communication avec Dieu, bien sûr. L'homme a aussi reçu une âme immortelle, ce que les animaux n'ont pas. L'homme est capable de sentiments, d'émotions. Et cela nous parle de l'image de Dieu, qui lui-même... Alors, des émotions, c'est peut-être... un peu vite dit, mais en tout cas qui n'est pas un Dieu impassible dans le sens qu'il ne ressent rien, qu'il n'est pas amour, etc. L'image de Dieu nous montre aussi l'unité dans la diversité, dans la différence. Notez bien qu'il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. L'homme et la femme sont de la même nature, ils sont tous les deux êtres humains, mais néanmoins différents. Et là encore, ça nous parle de la Trinité. Dieu est unique, il est de la même espèce, si j'ose dire, mais en trois personnes différentes. Quelque part, cette dualité entre homme et femme nous parle aussi de la Trinité. Être à l'image de Dieu nous donne une valeur particulière. Nous sommes l'achèvement de sa création. Et aucune autre créature n'a reçu ce privilège d'être appelée image de Dieu. Alors là, attention, je mets un petit warning parce que ce texte de Genèse 1 parle d'une situation avant le péché. Et le péché a sérieusement écorné, abîmé l'image de Dieu dont étaient bénéficiaires nos premiers ancêtres. Le péché a... Comment dire ? C'est un peu comme si vous voyez une ruine, vous voyez ? Quand on regarde une ruine en Grèce, on peut s'imaginer des beaux temples, des beaux palais, tout ça. Il y a quelque chose de cette forme originelle, mais ce n'est qu'une ruine. C'est un peu la situation que nous connaissons à l'heure actuelle. Nous sommes tous à l'image de Dieu, mais cette image est abîmée par le péché. Néanmoins, on peut quand même en tirer quelques applications. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, quand tu regardes ton prochain, tu vois l'image de Dieu. Pense-y quand tu regardes ton chef, ton prof, ta femme, ton mari, le SDF dans la rue, l'étranger, la personne handicapée, ou tout simplement ton voisin, ta voisine. Il y a l'image de Dieu dans toutes ces personnes-là. Et cela nous oblige à avoir un respect envers toute créature de Dieu, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que parce qu'elle porte en elle-même cette image du Créateur. Dieu, donc, après avoir créé tout cela, considère tout ce qu'il a créé et affirme que c'est très bon. Jusque-là, tout était bon, et quand il regarde l'ensemble, il dit « c'est très bon ». Alors il se repose. Nous en arrivons à la fin. Ainsi furent créés le ciel et la terre, je suis au chapitre 2, versets 1 à 3, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Voilà, tout est fait. Il y a eu un début, il y a eu une fin. Dans ces six jours de création, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. C'est parfait. Le Créateur a achevé une œuvre magnifique. Mais chose étonnante, à première vue, Elohim se réserve un jour pour se reposer. Littéralement, il shabbate. Après avoir déployé autant de puissance avec une aisance surprenante, déconcertante, était-il fatigué? Certainement pas. Lui qui ne sommeille ni ne dort ne peut pas connaître l'usure de la fatigue. Ce qu'il fait, en quelque sorte, quand le texte nous dit qu'il se repose, c'est qu'il fait un pas en arrière pour admirer avec satisfaction le monde parfait qu'il vient de créer. C'est un peu comme vous, si vous réalisez une commode IKEA, vous êtes bien pris la tête, vous avez recommencé trois fois, et une fois que cette commode IKEA est terminée, vous vous reposez en quelque sorte. Vous la regardez et vous dites elle est quand même belle cette commode IKEA. Eh bien Dieu a fait un peu la même chose. Ce septième jour est béni, il est mis à part. Mais quelle est l'utilité de bénir un jour? Autant on peut bien comprendre l'utilité de bénir la création pour qu'elle puisse se multiplier et remplir la terre, mais à quoi sert-il de bénir un jour, si ce n'est pour l'homme, pour son usage? Et ce Shabbat primitif sera explicité plus loin, plus tard, par Moïse, dans les 10 commandements qui seront donnés au peuple hébreu. Ce Shabbat primitif sera institutionnalisé, le septième jour sera mis à part pour le peuple hébreu, pour se reposer de son travail. Le peuple hébreu était alors invité à faire un pas de côté pour regarder les 6 jours passés de la semaine et remercier Dieu pour tout ce qu'il avait fait. Nous sommes aussi invités à cela, encore aujourd'hui. Une occasion nous est donnée de nous reposer, de regarder ce que Dieu a fait pour nous pendant ces 6 jours passés, de le remercier pour cela. Et c'est ce que nous faisons, d'une certaine façon, en étant là ce matin, en écoutant sa parole, en priant, en chantant, nous mettons un jour de côté pour nous rappeler des bontés du Créateur. Dieu a mis un jour de côté pour se reposer. Serions-nous plus occupés que Dieu pour ne pas pouvoir nous arrêter, nous aussi, un jour dans la semaine ? Je m'arrête là sur ce passage, il y avait beaucoup à dire et je vous remercie de votre concentration qui n'était pas si évidente, surtout avec cette chaleur. Et si vous avez manqué quelques passages, je vais juste résumer à très grands traits ce que nous avons vu. D'abord, au commencement, il y a Dieu. Avant la création du monde, il était là, il est l'Éternel, il est le centre de l'histoire. Elohim est un Dieu trinitaire qui agit avec sagesse, puissance, logique et ordre. Chaque étape prépare la suivante afin de permettre l'éclosion et la persistance de la vie. Rien n'est laissé au hasard, tout est préparé, anticipé. Il n'y a pas de chaos possible en lui. la diversité et la spécificité cohabitent avec harmonie. Elohim crée un monde bon, ce qui témoigne des créateurs bons. Et que fait ce créateur bon ? Il bénit. Voilà le fondement de son caractère. Au travers de la création, Dieu révèle sa bonté et le fait qu'il aime bénir. Nous avons vu que le monde dans lequel nous vivons, et ce sera développé plus tard dans d'autres chapitres de la Genèse, n'est pas tout à fait celui de la création originelle. Le péché est passé par là et explique pourquoi, malgré de belles survivances encore dans ce monde, tant de choses ne tournent pas rond. Si vous ne reconnaissez pas totalement le monde dans lequel vous êtes par rapport à celui que nous avons lu, c'est normal. Il y a un gap entre les deux. Dieu, dans son projet créationnel, souhaite faire des humains à son image, distincts des animaux, afin que les humains puissent prendre soin de la création. L'homme n'est pas un accident ou l'aboutissement d'une évolution aveugle. Notre existence, ton existence, est précieuse aux yeux du Créateur, et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin de rétablir cette image qui a été défigurée par le péché. Son amour est tellement grand qu'il a un plan de salut avant même la création du monde. C'est incroyable. Malgré tous les soins que Dieu avait pris, il savait déjà que sa créature bien-aimée allait se rebeller contre lui et entraîner toute l'humanité à sa suite. Il savait déjà que créer un monde avec un être humain allait coûter la vie de son propre fils. Mais Éphésiens 1, verset 4 nous dit que bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait déjà choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Avant même le projet de création, Dieu avait déjà un premier projet de choisir des hommes et des femmes multiples dans ce monde pour les sauver de la malédiction du péché. Tout cela était déjà prévu. Alors, pouvons-nous goûter cette joie d'être un fils ou une fille du Dieu créateur de l'univers ? Pouvons-nous goûter cette joie ? Je vous pose la question. Si c'est le cas, super. Il y a vraiment un privilège immense de lui appartenir. Si ce n'est pas le cas, ce Dieu qui s'est fait si proche en Jésus-Christ t'invite encore ce matin à venir à lui dans la foi et la repentance afin de recevoir la vie nouvelle qu'il veut te donner, de rétablir cette image de Dieu qu'il avait faite à l'origine. Si nous sommes sous l'autorité du grand maître de l'univers, alors reconnaissons que l'auteur a autorité et qu'il a toute légitimité pour nous diriger et nous dire ce que nous avons à faire. Et sa parole est là. Si nous croyons que Dieu est le grand Dieu de l'univers et que nous sommes à lui, alors nos prières prennent un sens différent. Nous nous adressons à celui qui a tout fait. Et nous pouvons prier avec assurance en disant « Qu'est-ce qui est impossible à toi, grand Dieu de l'univers ? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Rien. » Cette compréhension de qui est Dieu devrait donner une force, une vitalité nouvelle à nos prières. Elle devrait aussi bannir nos craintes. Si Dieu est avec nous, ce grand Dieu qui a tout créé, qui serait contre nous ? Que pouvons-nous craindre ? Si ce grand Dieu de l'univers est avec nous, nous avons toute assurance pour être à notre tour ses témoins dans le monde, pour refléter son image, pour parler de sa bonté. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous ce grand Dieu qui est là et qui est aussi là. Amen.